Radio Stable.
Morning edition from NPR News.
Lo que se reproduce en esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Sao Paulo est la première escale d'un jour dans le monde. La gauche brésilienne tente de se refaire une santé, de préférence sans Lula qui s'accroche. C'est le premier grand format de ce mardi. Nous irons aussi en Indonésie où on se demande sérieusement s'il ne faudrait pas déplacer Jakarta parce qu'elle coule. Je vous emmène aussi à Hong Kong prendre des nouvelles de la révolution des parapluies. Figurez-vous que Netflix s'intéresse à son jeune leader. La revue de presse des correspondants de France Inter également. L'édito d'Anthony Bélanger à 18h55. Nous serons en Corée du Nord. Allez, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Merci de nous écouter. On commence avec une chef d'État incroyablement inamovible.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Quand une campagne électorale a pour slogan « Pour une Allemagne dans laquelle nous vivons bien et volontiers », c'est qu'il n'y a vraiment pas le feu à la maison. Ce slogan, c'est celui d'Angela Merkel qui, dans un mois, donc presque pile, joue sa réélection sans trop de pression, avec elle les 650 sièges du Bundestag. Si elle est réélue, ce sera son quatrième mandat, un exemple de stabilité quand autour d'elle tout crie populisme ou dégagisme. À l'image de son slogan de campagne, elle est vraiment tranquille. Angela Merkel, apparemment, elle n'a pas beaucoup de raisons de s'en faire. Bonjour Hélène Mire de la Croix.
Bonjour.
Et c'est vrai que si on en juge par les papiers qu'on lit, on s'ennuie dans cette campagne. En fait, c'est tellement tranquille qu'on s'ennuie. Vous ennuyez aussi ou pas?
Jamais, vous savez, l'Allemagne n'est jamais ennuyeuse. Alors on s'ennuie un peu en effet, d'abord parce que c'est l'été, il ne faut pas l'oublier. Une campagne qui a lieu pendant l'été, il y a la moitié des Allemands qui ont été en vacances au mois de juillet, l'autre moitié au mois d'août. Angela Merkel est rentrée il n'y a pas très longtemps
de
vacances.
Non, elle vient à peine de commencer, effectivement.
Voilà, et elle joue en effet la ligne de la continuité, de la confiance. Et le pays va relativement bien, en effet, il y a des gens qui vivent pas très très bien, mais le pays va relativement bien. Donc elle joue sur « continue encore », misons sur une Allemagne qui va poursuivre cette solidité. C'est en plus l'image qu'elle a acquise progressivement, avec certitude, et elle essaie de ne surtout rien proposer, en reproduisant finalement ce qu'elle avait fait les années précédentes, enfin les campagnes précédentes, c'est tous les 4 ans en Allemagne, c'est assez souvent. C'est-à-dire en ne proposant pas grand-chose, en sentant monter les thèmes.
Quand éventuellement, on fait pas de promesses, on nous accuse pas de pas les avoir tenues.
Voilà, exactement, en prenant les thèmes qui commencent à prendre et qui sont lancés par ses adversaires, et elle finit par se les approprier. Alors, la situation récente a réussi en plus très fortement, puisqu'elle était dans une grande coalition, donc avec l'autre grand parti.
Le SPD, on va y venir.
Voilà, et tout ce qui a bien marché a été mis à son crédit à elle, ce qui est assez injuste pour le SPD.
Alors, c'est vrai que c'est devenu un peu une tarte à la crème de le dire, évidemment, mais les Allemands voient bien autour d'eux les tentations, je le disais, de dégagisme ou de populisme. Mais si on a envie de cette stabilité, est-ce que c'est l'Allemagne, est-ce que c'est ce que vous venez de dire, effectivement, cette envie que rien ne change, ou est-ce que c'est elle aussi qui. C'est Angela Merkel et sa personnalité qui provoque ce genre de réaction de la part des Allemands.
C'est intéressant comme question, parce qu'en effet, c'est une vraie question. Les Allemands ont trouvé là une personne qui les rassure et qui ne donne pas des grandes envies de changement. Et c'est certain qu'elle assure cette continuité qui est liée à sa personne. Toutefois, il faut quand même comprendre, et ça, il faut toujours le répéter aux Français, il y a une similitude entre nos deux pays, mais cette campagne électorale est différente parce que c'est d'abord une campagne pour des élections de députés. Et même si quand on fait les sondages, on demande pour qui voulez-vous voter, qu'on peut donc faire ses prévisions et dire elle va vraisemblablement être la nouvelle chancelière, elle en tant que personne, elle va être élue dans une région du nord-est de l'Allemagne. Et quand les autres personnes, les autres électeurs vont voter, ils ne vont pas pouvoir voter Angela Merkel. Ils vont voter en plus avec un système un peu compliqué où chaque électeur a 2 voix, on élit un député directement pour sa région et on donne une orientation pour un parti. Il y a tout un jeu des stratégies.
Vous voulez dire qu'on ne pense pas forcément à elle au moment où on vote, en fait. Donc le côté Maminova, comme ça, Mouti, etc., ça marche pour certains, mais finalement pas forcément pour tout le monde.
C'est en deux temps, si vous voulez. D'abord, il faut aussi comprendre qu'en Allemagne, l'échelle fédérale, qui est nationale, n'est pas la première qui vient à l'esprit des gens. Les gens votent vraiment pour leur région. Et donc, on élit le député de la circonscription. Et là, il peut y avoir, si vous voulez, des colorations régionales qui peuvent être complètement en décalage avec ce que l'on souhaite pour le niveau fédéral. En même temps, lorsque l'on donne la 2e voie, donc pour pouvoir donner une couleur à un parti, puisque c'est un système vraiment très représentatif, enfin comment dire, proportionnel, là on pense à la future coalition. Sauf que, même si on est quasiment certain que ce sera Angela Merkel la future chancelière, puisqu'elle sera à la tête du groupe de députés qui sera le plus nombreux, donc ce sera elle, avec qui va-t-elle pouvoir voter avec qui va-t-elle pouvoir gouverner? Parce qu'il faut qu'elle soit soutenue par 50% des sièges du Bundestag, et pour l'instant, elle toute seule, son parti n'arrive arriverait à peu près à 38%, et son allié privilégié n'en aurait qu'une, que 9 ou 10,
c'est-à-dire pas assez. Le seul vrai enjeu, la seule chose qui nous intéresse au final, alors on va revenir aussi sur la situation économique de l'Allemagne, etc., mais c'est vrai que la seule chose qui est vraiment intéressante, c'est ça. Avec qui elle s'allie? Parce que allié avec le SPD, là, on a l'impression, si Martin Schulz m'entendait, je pense qu'il serait pas content, mais on a l'impression que c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet quand même. Tout le monde, finalement, s'est tellement recentré que c'est des centristes contre les centristes.
Alors, ça, c'est tout à fait caractéristique aussi du paysage politique allemand. La CDU, qui est donc a priori un parti conservateur, chrétien-démocrate, et s'est énormément recentré ces dernières années. Mais aussi le parti du SPD, donc des sociaux-démocrates, qui est quand même la tradition plutôt du mouvement ouvrier, s'est énormément centré, ce qui a donné cette capacité à gouverner ensemble, ce qui n'est pas du tout imaginable dans beaucoup d'autres pays d'Europe, mais qui a surtout pour effet de laisser des insatisfaits de part et d'autre du centre.
Mais est-ce que c'est pour ça que Martin Schulz n'accroche pas dans cette campagne, qu'il a les mains qui glissent finalement?
Alors il y a plein de raisons pour lesquelles il n'accroche pas, et c'est assez décevant pour lui. D'abord, il n'accroche pas parce que, comme je l'ai dit, ce qu'il propose est assez peu en décalage avec la politique qui a été menée jusqu'alors et qui est mise au crédit.
Il a même été obligé de reconnaître, c'était il y a quelques jours, que finalement elle avait fait du bon boulot.
Mais
donc
bien
c'est
sûr,
quand même un peu
mais ils ont travaillé ensemble, sauf que tout a été mis au crédit de la CDU de Mme Merkel. D'autre part, lui, en tant que personnalité, alors qu'on a imaginé, lorsqu'il est arrivé dans la campagne électorale tout début de l'année 2017, arrivant du Parlement européen, personne nouvelle, ah, il y a une espèce d'emballement, on a dit, enfin,
ça y est.
Et puis, ça s'est complètement dégonflé et il n'enthousiasme pas beaucoup les gens, même si beaucoup de sondages montrent qu'un certain nombre des thèmes, plus de justice sociale, plus d'aide aux petites écoles, etc., ce n'est pas associé à sa personne et c'est en effet assez désespérant pour lui.
Parce que justement, c'est la question que j'allais vous poser, parce que tout va pas bien dans le meilleur des mondes quand même en Allemagne. Alors effectivement, de notre côté de la frontière, on parle de ce chômage au-dessous de 6%, de ces excédents, etc., etc. Après, il y a les autres chiffres, il y a le côté pile, il y a les 13 millions de travailleurs pauvres, il y a les fameux mini-jobs dont on ne voudrait jamais, nous, ici, des petites retraites ou des choses de ce genre-là. Pourquoi la gauche ne trouve pas d'espace avec ces gens-là?
Alors, elle trouve un espace. Il y a des électeurs, mais pas suffisamment. Et ce que montrent aussi les études, c'est que la personnalité, si vous voulez, de Merkel rassure aussi. C'est-à-dire que
de caricaturer. Donc même quand elle dit vous serez très mal payé, ça rassure les
gens.
Elle
ne leur dit pas ça. Et là où elle essaie de jouer, et c'est ça, on l'a vu dans le débat qu'elle a eu ces derniers jours avec des Allemands ordinaires, un exercice auquel s'était plié Martin Schulz une semaine avant, elle a exactement adopté son approche, c'est-à-dire lorsque on lui a présenté une femme qui avait une petite retraite, qui disait pourquoi ça va pas, elle lui a dit qu'est-ce que j'ai fait de mal pour être aussi maltraitée, pour vivre aussi mal. Eh bien Angela Merkel, qui a un peu la réputation d'être froide et distante, a adopté exactement la tactique de Martin Schulz, c'est-à-dire que elle a dit on va se parler, venez, nous allons monter sur l'estrade avec moi. Elle n'avait pas de micro, elle a dit c'est pas grave, c'est moi qui descends, et elle a poussé la personne qui était assise à côté de cette dame pour pouvoir se mettre en scène comme précisément figure maternelle pouvant dire nous allons vous aider.
Et elle le fait naturellement d'ailleurs, c'est pas un coup de com'. Alors il y a forcément de ça quand même, elle est pas complètement naïve, mais il y a quelque chose de naturel dans cet élan ou pas?
Ça c'est un vrai mystère. On a déjà eu un épisode similaire en 2015, juste avant l'épisode des migrants, où elle était accusée d'une très grande froideur vis-à-vis des demandeurs d'asile en Allemagne, et où il y a eu une scène aussi à la télévision, là aussi avec les petits peuples, si vous voulez, et où on l'avait vue avec une fille de migrants palestiniens qui devait repartir chez elle, et où elle avait dû leur dire « Oui, mais c'est dommage, tu dois repartir, mais c'est comme ça, vous n'avez pas obtenu l'asile avec ta famille. » Et là, elle avait compris qu'elle avait mal joué et qu'il fallait jouer la carte de la proximité.
Et Hélène Mière-Delacroix, on va aller rejoindre Cyril Sauvageau dans un instant, qui est justement un meeting d'Angela Merkel. Une toute dernière question avant, quand même, sur cet angle-là. La question de la redistribution des profits, elle existe quand même à l'intérieur de cette campagne. Est-ce qu'il y a des voix pour dire « Non mais c'est bon, on est riche, maintenant tous ces gens-là, comme cette petite dame qui l'a interpellée, il va falloir quand même les aider mieux. » Est-ce que cette redistribution, ça existe?
La question est soulevée, mais essentiellement par les extrêmes. Et c'est là que c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que vous avez la gauche, l'extrême-gauche, si on peut dire l'extrême-gauche, qui s'appelle Die Linke, qui en effet met cela toujours en avant. Et puis d'une autre façon, l'extrême-droite avec l'AFD, qui joue à la fois la carte des vrais Allemands, des petites gens, avec des aspects très populistes, et qui en même temps propose un retour à la famille traditionnelle, qui ne correspond pas tout à fait à cet électorat.
On va y venir, et notamment à l'AFD d'ailleurs, L'Alternative für Deutschland. Bonjour Cyril Sauvageau.
Bonjour.
Et justement, vous êtes à un meeting d'Angela Merkel qui n'a pas commencé apparemment. Dites-nous d'abord où vous êtes et puis dites-nous s'il y a du monde surtout.
Alors je suis à Brandenburg an der Havel, qui est une petite ville d'Ex-Allemagne de l'Est, à l'ouest de Berlin. Et c'est là ce soir qu'Angela Merkel va prendre la parole dans une demi-heure pour l'un de ses nombreux meetings en plein air qu'elle a prévu d'ici à l'élection du 24 septembre. Alors écoutez, pour l'instant, on va dire que l'ambiance est plutôt calme et bon enfant. Il y a beaucoup de familles, beaucoup de personnes âgées aussi, pas mal de curieux qui veulent juste voir la chancelière, et puis surtout beaucoup qui sont déjà convaincus et qui glisseront sans hésitation leur bulletin dans l'urne pour la CDU le 24 septembre. Ces gens-là, quand on leur demande pourquoi ils continuent à faire confiance à Angela Merkel après 12 ans de pouvoir, eh bien, ils soulignent, comme vous l'avez dit, la stabilité, la rigueur, la sagesse même qu'incarne Angela Merkel, quelque chose de très important pour eux dans cette époque particulièrement troublée. Ils disent tous « kein Experiment », pas d'expérimentation cette année. On veut la continuité que propose Angela Merkel. Alors l'extrême droite va peut-être venir tenter de perturber cette apparition
d'Angela Merkel.
Comme elle
l'a déjà fait.
Elle l'a fait il y a quelques jours, par exemple, c'était à Quedlinburg, là aussi en Ex-Allemagne de l'Est, des militants de l'AFD qui s'étaient glissés dans le public pour siffler, huer la chancelière, accusée d'avoir trahi l'Allemagne en accueillant 1,5 million de réfugiés. J'ai vu tout à l'heure passer un bus de l'AFD, aux couleurs de l'AFD, tout près de la place où a lieu le meeting. Il y a probablement quelque chose qui se prépare. Mais Angela Merkel, elle avait répondu très calmement l'autre jour en expliquant qu'on résout pas les problèmes en hurlant. Et c'est ce qu'elle fera probablement ce soir encore si ça se reproduit, droit dans ses bottes, sûr de son bilan. Angela Merkel, cette chancelière qui se montre fidèle à ses principes et qui a décidé de mener une sorte de campagne sans éclat, sans coup de gueule, mais pour expliquer très calmement ce qu'elle a fait, ce qu'elle compte faire encore dans les 4 prochaines années. Elle aura comme ça une quarantaine d'apparitions publiques d'ici l'élection du 24 septembre.
Merci beaucoup Cyril, et on les suivra sur France Inter grâce à vous, ces apparitions et cette campagne d'Angela Merkel et en Allemagne d'une manière générale. Hélène Millard de la Croix, c'est vrai qu'on a vu l'extrême droite faire une petite apparition lors du dernier, donc peut-être l'avant-dernier meeting d'Angela Merkel. Autour de 10%, en gros, on frôle les 10%. Est-ce qu'on peut dire à peu près ce chiffre-là?
Certains sondages donnent 8, 9. Voilà. On pense en dessous de 10%, ce qui est beaucoup, parce que ce serait une entrée soudaine dans le Parlement fédéral. Et en même temps, c'est moins que la percée qu'on avait vue l'année dernière dans un certain nombre d'élections régionales et qui donnait l'impression qu'il y avait d'un seul coup en Allemagne un populisme d'extrême droite, 15%, 16%, 20% dans certaines régions de l'Allemagne de l'Est.
Et en appuyant sur les migrants, notamment, forcément, elle s'en est plutôt bien sortie. Il y a eu un moment de flottement pour Angela Merkel. Elle s'en est plutôt bien sortie sur la question des migrants, tout en disant quand même, je le referai pas de la même manière.
Exactement. Elle s'en est bien sortie parce que elle a adopté une des demandes de son partenaire naturel, qui est la CSU bavaroise, qui était de faire comprendre que on pouvait pas accueillir toute la misère du monde et qu'il fallait mettre des plafonds. Alors, elle n'a pas prononcé cette phrase exactement, mais il y a un ressaisissement, si vous voulez, en particulier en reconduite à la frontière d'un certain nombre de députés.
Qui sont vraiment effectives.
Oui, alors le problème, et c'est ce dont se plaignent beaucoup d'Allemands, et notamment de petites entreprises, c'est qu'elles viennent trop trop tard. C'est-à-dire que les autorités sont assez débordées et les déboutés du droit d'asile se retrouvent en fait déboutés alors qu'ils ont déjà fait l'effort d'apprendre l'allemand, de travailler, de trouver un emploi, d'être formés, notamment dans des petites entreprises. Leurs enfants parlent l'allemand et d'un seul coup, on les ramène à la frontière, ce qui non plus ne passe pas très très bien dans la population, et c'est assez maladroit.
Ça a probablement été la marque, cette histoire de migrants des derniers mois, des dernières années d'Angela Merkel. 21% des Allemands quand même disent qu'on ne pourra pas faire les frais d'une nouvelle crise. En tout cas, pense que ce sera la prochaine priorité de ce mandat aussi, les migrants en Allemagne.
Oui, en effet. Alors, il y a deux aspects. Il faut bien les intégrer, ça c'est un des aspects. Et l'autre aspect, c'est éviter que d'autres arrivent. Et ce qui, là, nous amène sur vraiment d'autres questions, qui sont les relations avec la Turquie, puisque bien Erdogan, dans cet accord que Merkel avait négocié avec lui, retient d'une certaine façon sur son sol des candidats à la
Il a appelé les Allemands à ne voter ni pour l'un ni pour l'autre, d'ailleurs.
Voilà, alors il a un peu invité à ne voter pour personne, puisqu'il a dit ni les rouges, ni les verts, ni les noirs, donc il reste plus que l'extrême droite et l'extrême gauche.
Et du coup, il fait de mal à personne, en tout cas pas ni à Angela Merkel, ni au SPD pour l'instant, grosso modo.
Oui, a priori, ce serait plutôt le SPD qui pourrait subir cette conséquence si, en effet, la population allemande d'origine turque, les électeurs suivaient ce que dit Erdogan, puisqu'il vote plutôt SPD.
Allez, c'est dans un mois quasiment, le 24 septembre, ces élections allemandes qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt sur France Inter, grâce à vous et probablement avec vous aussi. Hélène Millard de la Croix, merci mille fois.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde au Brésil avec Lula qui persiste mais la gauche qui ne signe pas pour le revoir. Tiens, 18h55 avec vous Anthony Bélanger, vous nous emmènerez ?
Je vous emmènerai en Corée du Nord. Oui, bien sûr, on va s'intéresser, vous savez, à ce tir nord-coréen qui est au-dessus du Japon. C'est une première depuis 2009. Puis moi, j'ai me posé des questions simples et celle-là, ce sera pourquoi tire-t-il ?
Eh bien, on verra ça. Donc, dans un instant, nous irons aussi à Hong Kong et c'est d'ailleurs ce qui a inspiré Chewbacca ce soir. Je vous préviens, c'est baroque.
Up, check it. Killer be swarm in each one of my palms. Black on every goddamn song for how long? Rap a lot, hard as a center block to capture. Pip the way I'm rocking this house, we've only practiced. Turn every TV around to shout and shouting. Long Paul, kinky the flow, stand to Paris. Big dog in town, them clips the hound. Wolf arms whipping the pound, I'll shut him down.
I tried again, I tried, yet I'm stuck inside a game where I just lose and never win. No time to waste. No, 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 no time to waste. Oh, yeah. I'm holding on. I'm holding on. I'm holding on to all I am. Yes, I'm holding on. I'm holding on. I'm holding on to all I am.
France Inter, le 18-20.
Et nous sommes à Sao Paulo. C'est la première escale d'un jour dans le monde. Bonsoir, bonjour Marine Audacher.
Bonjour.
Voilà, vous êtes là, Sao Paulo, où vous revenez, d'où vous revenez d'un meeting, voilà, de la gauche orpheline de Dilma Rousseff, orpheline tout court d'ailleurs. Difficile de se construire quand on est la gauche au Brésil et le temps commence à presser. Nous sommes à un an des élections présidentielles. Le président de droite, Michel Temer, ne se porte pas vraiment mieux, mais trouver une gauche sans Lula quand lui se verrait bien revenir, visiblement, Marie, c'est très compliqué.
Oui, car Lula reste incontournable sur la scène politique. Selon un sondage du début du mois, il recueillerait 32% des votes. Si les élections avaient lieu aujourd'hui, il serait donc au second tour. Mais pour une partie de la gauche, il faut s'organiser sans lui, qu'il puisse ou non se présenter en 2018.
Eh bien Marie, on va écouter votre reportage dans un meeting de ce mouvement Vamos où vous étiez ce matin, puis on se retrouve juste après.
Pour les militants de gauche, c'est un coup d'État qui a chassé Dilma Rousseff il y a un an du pouvoir. Mais leur cri « Fora Temer, dégage Temer » peine à proposer autre chose que la sortie d'un président rejeté par 87% de la population. Le mouvement « Vamos, allons-y » en portugais, initié par le collectif « Povo Sem Medo, Peuple sans peur » rassemble les figures du parti Socialisme et Liberté, le PSOL. Le rouge du PT a été laissé au placard et ce sont des t-shirts violets qu'arborent les militants en criant « Nous sommes le peuple qui n'a pas peur de lutter » quand Luisa Erundina, première femme maire de São Paulo en 1988, appelle ce soir les jeunes à ne pas se détourner de la politique. À 82 ans, celle qui a vécu la dictature militaire est écoutée et respectée.
Tant de jeunes sont intéressés par la politique. Et beaucoup de jeunes qui n'ont pas vécu ce que nous avons vécu. Tant de luttes, de conquêtes et de pertes. En tant qu'éducatrice, je me soucie de cette jeunesse, du futur de la politique. Et c'est vous, les jeunes, les moins jeunes ou les plus vieux, qui allez construire le futur de cette politique. Parce que le rêve ne vieillit pas.
Sur l'estrade, des représentants des mouvements sociaux, les indigènes, les femmes, les noirs, les sans-terres, qui sont venus grossir les rangs des déçus du PT, comme Sylvia Ferraro, militante féministe.
13 années de gouvernement du PT. En 13 années, peu a été fait. La violence est le grand fléau au Brésil, surtout pour les femmes. Sans oublier l'avortement, qui n'est toujours pas légalisé chez nous. La violence ne touche pas seulement les femmes, c'est vrai aussi pour les Noirs. La violence de la police militaire aussi. La violence domestique contre les femmes et les populations LGBT aussi est préoccupante.
Ici, personne ne parle de Lula, en pleine campagne dans le nord-est du pays, pour une tournée de 5 semaines à la reconquête de son berceau électoral. Les militants de Vamos ne veulent plus d'un leader charismatique sur lequel reposerait tout espoir de gagner les élections.
Et Marie, on a bien compris, donc en vous écoutant, que cette gauche voulait avancer sans Lula, mais de toute façon, peut-être qu'elle avancera sans lui, quoi qu'il en soit, puisqu'il risque 10 ans de prison pour corruption, il peut être condamné, non ?
Oui, s'il est condamné en deuxième instance, il ne pourra légalement pas se présenter en vertu de la loi Ficha Limpa, fiche propre, qui exige un casier judiciaire vierge pour être candidat. Alors Lula est accusé d'avoir accepté un appartement de 3 étages, comme pot de vin. Il fait également face à plusieurs enquêtes concernant une maison à la campagne et des voyages en Afrique pour promouvoir des entreprises brésiliennes, notamment Odebrecht. Mais l'idée pour ses avocats est de gagner du temps afin qu'il puisse se porter candidat. Le juge Moro, qui mène l'enquête dite du lavage à taux, lavage express, fait preuve, selon la défense de Lula, d'un acharnement systématique allant jusqu'à appeler les caméras de télévision pour aller le chercher chez lui au petit matin, l'armée en renfort. Il s'agit de donner l'impression qu'il est arrêté ou condamné. Les médias, eux, n'ont pas hésité à passer sous silence les accusations de corruption de la droite.
Et Marie, question, malgré ces scandales, pourquoi une telle popularité ?
Au-delà de la corruption qui gangrène tous les partis politiques, y compris celui de l'actuel président Michel Temer, c'est le bilan social des ADPT qui a changé le pays en profondeur. 40 millions de Brésiliens sortis de la pauvreté, les Noirs et les indigènes qui ont pu entrer à l'université grâce aux quotas. Lula est un animal politique, ce qui n'était pas le cas de Dilma Rousseff qui lui a succédé en 2011.
Et il doit en déranger beaucoup aussi, non ?
Oui, Lula est aussi la bête noire de l'élite. Dans les manifestations pro-impeachment ou anti-corruption, il est systématiquement représenté en habit rayé noir et blanc de prisonnier, un boulet au pied. Pour chasser le PT du pouvoir, une partie des Brésiliens a sorti ses casseroles pour taper dessus en signe de révolte. À São Paulo, ces panelas ou ces concerts de casseroles ont résonné pendant de longues semaines dans les quartiers riches au moment de la destitution de Dilma Rousseff l'année dernière. En la chassant du pouvoir, c'est aussi Lula et le PT qu'il s'agissait de faire disparaître de la scène politique.
Marie, une dernière question rapide. Est-ce que Vamos est représentatif d'un nouveau souffle au Brésil ?
Pour toute une génération de militants de gauche qui n'a pas forcément connu la dictature, qui a duré de 1964 à 1985, plus de 20 ans, s'organiser pour empêcher les extrêmes religieux ou la droite dure de gagner du terrain est indispensable. Alors, le mouvement Vamos, c'est une tentative, un petit noyau de militants qui s'organise pour lancer des débats dans une dizaine de villes à travers le pays. Mais fin 2017, le scénario économique est catastrophique. Fini les années de croissance, le pays est entré en récession, le chômage a doublé en 6 ans, atteignant 13% des Brésiliens. Donc au-delà de la crise de confiance politique, c'est surtout la profonde crise économique qui est dans toutes les têtes.
Marie Nodacher, en direct avec nous de Sao Paulo pour Un jour dans le monde. Merci.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Sintès.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
Et il est 23h40 à Jakarta. L'actu en série, séquence ouverte, vous l'avez peut-être reconnu. Tiens, vous vous y habituerez, par Leonardo DiCaprio. Tous les mardis, le pire et le meilleur à travers le monde en matière d'environnement. Question ce soir, et si Jakarta déménageait, figurez-vous. Jakarta, la capitale de l'Indonésie, c'est 10 millions d'habitants. trois fois plus dans le Grand Jakarta, une qualité de l'air épouvantable, troisième ville la plus congestionnée du monde, si bien qu'on songe à prendre les bureaux, les ministères, les fonctionnaires et à envoyer tout le monde ailleurs. Joël Brenner, vous êtes avec nous sous les klaxons. C'est du sérieux ça quand même ou pas?
Bonjour Fabienne. En Indonésie, l'idée de changer de capitale n'est pas neuve et fait même un peu figure de serpent de mer, puisque Sukarno, le premier dirigeant du pays, l'avait déjà envisagé dans les années 50. À l'époque, peu après l'indépendance, la motivation des autorités était surtout de se débarrasser des symboles du colonialisme, puisque Jakarta, sous le nom de Batavia, était auparavant la capitale des colons hollandais. Bref, au final, le projet ne s'était pas concrétisé, mais l'idée revient aujourd'hui en force et elle est principalement portée publiquement par l'actuel président indonésien Joko Widodo.
Que le site envisagé pour la future capitale soit ici, là ou dans une autre province, je ne vais pas vous le révéler pour l'instant. Si je vous indiquais un lieu, tout le monde se précipiterait là-bas pour y acheter du terrain et il n'en resterait plus suffisamment pour l'État.
Même si le président indonésien que vous venez d'entendre demeure mystérieux, des études de faisabilité sont en cours, en particulier à Bornéo, et si elles sont concluantes, des travaux d'aménagement pourraient théoriquement démarrer dès 2018. Le fait que le président défende personnellement l'idée d'un changement de capitale en fait en tout cas une option tout à fait crédible, même s'il lui faudra amadouer certaines voix dissidentes qui jugent ce projet non prioritaire et surtout extrêmement coûteux.
Joël, j'ai une question pour vous. Est-ce que ce possible changement de capitale pourrait vraiment réduire la pollution ?
Récemment, un ministre évoquait le chiffre de 900 000 fonctionnaires dédiés à la capitale. Si une grosse partie d'entre eux quittait Jakarta en famille, cela provoquerait forcément une réduction partielle de la circulation et de la pollution automobile, sans compter le personnel d'ambassade, de sièges d'entreprise, etc., qui se délocaliseraient eux aussi. Ceci dit, Jakarta resterait la capitale économique, et surtout une mégalopole très densément peuplée, sans transport public digne de ce nom, et en grande partie construite pour ne rien arranger sur une zone côtière déjà inondable, alors que les effets du changement climatique laissent présager une montée à venir du niveau des océans. Bref, un changement de capitale, s'il a lieu, ne résoudrait donc de loin pas tous les problèmes de l'ancienne Batavia, mais provoquerait toutefois un appel d'air appréciable. Certaines ONG locales tentent par ailleurs de sensibiliser, notamment sur la pollution de l'air dans la capitale. Mais dans un pays qui compte encore des millions d'habitants sous le seuil de pauvreté, ces groupes, qui souffrent aussi souvent d'un certain amateurisme, peinent à se faire entendre. Pour communiquer sur le monstre urbain qui est devenu Jakarta, il reste alors la méthode de l'humour, comme le fait Rizky, un jeune youtubeur qui raconte son arrivée dans la capitale.
J'ai vite compris que les embouteillages de fous faisaient partie du quotidien à Jakarta. Le pire, c'est la mauvaise qualité de l'air. L'air est si mauvais qu'il n'y a aucun oiseau nulle part et qu'il n'y a pas non plus d'arbres qui poussent. Non, la seule chose qui arrive à pousser ici, ce sont le béton et les buildings.
Du béton un peu partout et une ville étouffante aux allures de parking géant, ce sombre constat qui n'est pas qu'une plaisanterie pourrait bien sceller le destin de Jakarta et pousser la capitale indonésienne à définitivement changer d'air.
Joël Brenner, je vous laisse à vos fleurs de béton en direct avec nous depuis Jakarta. Vous êtes dans Un jour dans le monde, ne changez rien, je vous l'offre. Écoutez, on reste en Asie. À Allez, le coup de fil d'actu, 4 minutes, 4 questions pour expliquer une actualité passée sous les radars. Nous allons à Hong Kong et c'est Florence de Changi qui nous y attend. Bienvenue dans Un jour dans le monde, Florence, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Alors il faut un peu tourner les pages des journaux quand même, mais si on y prend vraiment garde, on a bien vu que les manifestations à Hong Kong avaient repris cet été, souvent, comme au fameux temps de la révolution des parapluies. Semble-t-il, Florence, les autorités chinoises sont en train de durcir le ton devant les contestataires.
Oui, absolument. Enfin, c'est vrai que l'été a été égrené d'événements politiques assez significatifs. Ça avait commencé avec la visite sous haute surveillance du président chinois Xi Jinping le 1er juillet, suivi le 13 juillet de l'annonce de la mort tragique en prison du dissident Liu Xiaobo, qui est prix Nobel de la paix et qui était un symbole de la lutte pour la démocratie en Chine et donc bien sûr aussi à Hong Kong. Et puis en effet, la semaine dernière, deux rendu de justice important, quand d'une part la justice a imposé des peines de prison ferme de 6 à 8 mois pour trois leaders étudiants, figure de proue du mouvement des parapluies que vous mentionniez, et d'autre part la cour de dernière instance a confirmé l'exclusion du Parlement de deux jeunes députés d'opposition, des jeunes radicaux, car ils avaient soi-disant mal prêté serment. Inutile de dire que jusqu'à présent, aucun député ou ministre n'a jamais perdu son poste pour cette raison. Et ces deux décisions sont lourdes de conséquences. D'abord, parce que la véritable peine pour ceux des condamnés qui sont élus, c'est non seulement la prison ferme, mais aussi, bien sûr, leur inéligibilité politique pour 5 ans. Quant à la décision de la Cour de dernière instance de valider l'exclusion de ces deux députés qui avaient mal prêté serment, elle annonce aussi, bien sûr, l'exclusion de plusieurs autres députés qui ont également été exclus pour les mêmes motifs et qui ont aussi fait appel. Donc ces deux décisions semblent procéder de la même logique, à savoir faire sortir de la vie politique autant de députés potentiellement dérangeants, même si bien sûr la nouvelle chef de l'exécutif s'en défend.
Est-ce qu'il y a une raison, Florence ? Est-ce qu'on sait pourquoi Pékin devient plus sévère ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de précis à Hong Kong qui justifie ça ?
On est effectivement dans une situation tendue à Hong Kong depuis plusieurs années et ça a été en partie aggravé par la personnalité dure et impopulaire de l'ancien chef de l'exécutif Chi Wai-lung, qui vient d'être remplacé par Carrie Lam mais qui n'est que son numéro 2. Et la principale crise récente que tout le monde a encore à l'esprit, c'est effectivement l'épisode de la révolte des parapluies qui a eu lieu à l'automne 2014. Et la raison de ce mouvement, ce qu'il avait déclenché, c'était une décision de Pékin sur le mode d'élection du chef de l'exécutif. Mais finalement, après 79 jours de révolte, cette réforme n'est pas passée. Du coup, lors de la dernière élection du chef de l'exécutif, en mai de cette année, c'est l'ancien système qui est encore moins démocratique qui a servi. Donc tout cela, évidemment, est extrêmement frustrant, notamment pour la jeunesse qui est éduquée et qui s'inquiète de son avenir. Et cette frustration grandissante a plusieurs conséquences. La première, bien sûr, c'est le développement d'idées beaucoup plus radicales dans la société. Et aujourd'hui, on entend parler d'indépendance, d'autonomie, d'autodétermination, qui sont autant de mots et de concepts tabous perçus quasiment comme de la trahison par Pékin et qui forcent évidemment Pékin à hausser le ton. Et puis, deuxième conséquence, ça a aussi eu pour effet justement l'arrivée de députés beaucoup plus radicaux au Parlement en septembre dernier, députés dont on vient de parler, qui sont aujourd'hui, bien sûr, dans le collimateur des autorités.
Alors justement, Florence, quand on parle de radicaux, quand on parle de jeunesse radicale surtout, le fameux leader du mouvement, le petit à lunettes dont on a bien retenu le visage, qui s'appelle Joshua Wong, est-ce qu'il est en train de devenir une sorte d'icône, une sorte de figure ? Est-ce qu'on peut dire que, je ne sais pas comment on peut mettre les mots là-dessus, le futur dissident chinois, c'est lui, quoi ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il a l'étoffe d'un leader. Il l'a déjà prouvé puisque c'est lui qui a mené la rébellion en 2012, donc avant déjà 2014, contre une loi d'éducation patriotique qu'il était le seul à avoir identifiée. Il avait à peine 15 ans et il est donc le parfait symbole d'une lutte de David contre Goliath, lui le petit David, et Goliath étant évidemment le parti communiste chinois. Ses mentors, comme le vieil avocat Martin Lee, qui a 80 ans aujourd'hui et qui est considéré comme le père du mouvement démocratique à Hong Kong, parlent de Joshua Wong avec beaucoup d'admiration et d'espoir, il faut dire. Mais le plus gros atout de Joshua Wong, et il n'oublie jamais de le rappeler, c'est sa jeunesse face à des leaders chinois qui ont en moyenne 40 ou 50 ans de plus que lui.
Très très vite, Florence, il y a un documentaire sur Netflix au sujet de ce jeune garçon. C'est pas complètement anodin, j'imagine que ça plaît pas forcément à la Chine de le voir prendre cette ampleur-là, si ?
Absolument. Et une autre chose qui ne plaît pas à la Chine, et c'est dans la même logique, c'est le fait qu'il est très appuyé par les autorités américaines, et notamment certains sénateurs qui prennent systématiquement fait et cause pour sa défense, et c'est quelque chose qui ne lui sert pas forcément, mais qui effectivement renforce son rôle symbolique d'icône d'anti-parti communiste chinois.
Et en un mot, les prochains rendez-vous, est-ce que Hong Kong s'attend à une rentrée difficile, Florence ?
Bah, le gouvernement de Hong Kong a encore 40 procès en cours contre 26 opposants, donc on est loin d'une situation apaisée, même s'il y a quelques jours seulement, la nouvelle chef de l'exécutif indiquait qu'elle souhaitait éviter les conflits et elle a nié les insinuations selon lesquelles Hong Kong prenait la voie d'un régime de plus en plus autoritaire, mais l'avenir le dira.
L'avenir le dira, comme vous dites, Florence de Changy, avec nous en direct de Hong Kong dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. La revue de presse des correspondants Beyrouth et Moscou, c'est tout de suite.
France Inter. Un jour dans le monde.
Le rendez-vous hebdo avec les correspondants de France Inter. On commence avec vous, Omar Waman. Vous êtes à Beyrouth. Comment ça va, Omar? Et qu'est-ce qu'on entend surtout derrière vous? Ces cris de joie, d'où viennent-ils?
Oui, bonjour Fabien. Eh bien, ce que l'on entend, eh bien, ce sont les cris de joie des habitants du village de Ka, aux portes de la Syrie, des images de l'IS diffusées en boucle par les télévisions libanaises, car les habitants de ce petit village chrétien sont enfin débarrassés des djihadistes de Daesh qui étaient retranchés depuis des années à quelques kilomètres à peine dans les montagnes qui séparent le Liban de la Syrie. Et ces habitants acclament, vous l'entendez, cette armée libanaise qui a lancé l'assaut sur les positions du groupe État islamique le 19 août dernier, et afin de déloger ces combattants ultra-radicaux.
Mais alors Omar, la joie de ces habitants qu'on entend effectivement apparemment tranche avec ce que vous lisez dans les journaux libanais.
Oui, car cette victoire a un goût amer. Cette bataille devait permettre de chasser Daesh, c'est fait, mais également de faire la lumière sur le sort des 9 soldats libanais enlevés il y a 3 ans par les djihadistes. Or, nous venons d'apprendre qu'ils sont très probablement morts, exécuté. Une photo en une du quotidien Al-Anwar montre des médecins légistes aux abords d'une fosse commune où les dépouilles de ces soldats ont été enterrées. Ce sont des djihadistes qui auraient indiqué l'emplacement exact de cette fosse. Des tests ADN seront effectués dans les prochaines heures pour confirmer ce que tout le monde ici au Liban redoute.
Alors, est-ce qui provoque la colère par-dessus tout, Omar, dans les journaux libanais, c'est que les coupables, eux, sont bien vivants et bien libres surtout?
Oui, et en sécurité. En une de l'Orient Le Jour, quotidien francophone, on peut voir le sourire d'un djihadiste de Daesh bien installé dans un bus parti hier en direction de la région de Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie. Au total, près de 300 combattants du groupe État islamique accompagnés de leurs familles ont pu être évacués en vertu d'un accord conclu entre Daesh et le régime de Bachar el-Assad ainsi que son allié le Hezbollah. Le Hezbollah pointé du doigt à longueur d'article car signataire d'un accord synonyme ici de trahison. Toujours dans l'Orient Le Jour, on peut lire comment l'État libanais s'est effacé devant la milice chiite alors que les djihadistes de Daesh étaient à portée de canon. Et en une de ce quotidien francophone, la question est posée. Y a-t-il encore un État aux commandes du pays du Cèdre?
Merci beaucoup Omar Waman en direct de Beyrouth. Vous revenez quand vous voulez dans Un jour dans le monde. Bonjour Claude Brouillot, vous êtes déjà un habitué vous?
Bonsoir.
Et à défaut, bonsoir, c'est vrai, à défaut de faire toutes les unes des médias russes, Claude, le énième cessez-le-feu dans le Donbass reste un sujet d'actualité à travers notamment les déclarations de Paul Volcker, l'envoyé spécial des États-Unis en Ukraine.
Oui, et c'est Vedomosti, quotidien indépendant, qui revient sur la pression mise par Washington sur Moscou en soulignant que Paul Volcker n'a pas donné d'assurance à l'Ukraine quant à la livraison d'armes létales capables de percer les défenses des rebelles du Donbass, eux-mêmes soutenus d'ailleurs militairement par la Russie. L'émissaire de Donald Trump s'est montré très critique envers le Kremlin et a assuré que la Maison-Blanche restait très sérieusement engagée sur cette question. Traduction d'experts russes dans les colonnes de Vedomosti, les États-Unis n'ont en réalité pas de véritable levier pour infléchir la politique de la Russie dans le Donbass, et cela alors que le nouveau cessez-le-feu censé faciliter la rentrée scolaire dans la région a déjà été violé la semaine dernière.
Allez, on enchaîne avec tout à fait autre chose. La rentrée scolaire devrait être un peu plus calme côté russe, même si elle est toujours marquée, c'est traditionnel, par la visite de Vladimir Poutine dans une école du pays. Ceci dit, vous me dites ça, vous savez, j'imagine qu'Emmanuel Macron ira aussi dans une école du pays. Bref, visite encore plus médiatisée en tout cas cette année à 7 mois de l'élection présidentielle.
Oui, cette année, le président russe ira à Yaroslav, croit savoir le quotidien Kommersant. Vladimir Poutine a limité le déplacement. Cette fois, l'an dernier, il était parti saluer des élèves et professeurs à Vladivostok, à l'extrême-est de la Russie. Cette fois, à 200 kilomètres au nord-est de Moscou, Kommersant laisse entendre qu'il pourrait s'agir là des débuts officieux de la campagne présidentielle sous la forme d'une leçon pratique pour petits et grands sur l'avenir de la Russie. Leçon dispensée, bien sûr, par le commandeur, lui-même considéré à ses débuts comme un élève turbulent qui avait notamment blessé un de ses camarades, qui lui cherchait des noix, paraît-il, en lui faisant une prise de judo. Sermonné à l'époque très sérieusement d'ailleurs par son enseignante, le petit Vladimir aurait eu cette réponse, selon la biographie officielle. Certains, madame, ne comprennent que le langage de la force.
Bravo. Dans un tout autre genre, et encore que d'ailleurs, l'an dernier, 400 Russes, 400 c'est pas beaucoup, mais quand je vais vous dire où ils vont, 400 Russes sont allés passer leurs vacances en Corée du Nord, Claude, mais quelle drôle d'idée.
423 Russes exactement, selon les statistiques oui officielles. Mais le chiffre risque de grandir d'ailleurs, puisque l'ambassade de Corée du Nord en Russie, qui fait tout pour détendre la stratosphère en ce moment, par l'intermédiaire de l'un de ses représentants à Moscou, a participé à la présentation d'une nouvelle agence de voyage russe, spécialisée donc dans les voyages d'agrément vers Pyongyang. Interfax, agence de presse cette fois, s'est emparée de l'événement et n'a pas manqué de questionner l'intéressé sur le régime qui était réservé aux candidats touristes. Réponse du représentant officiel nord-coréen à Moscou, « Nous sommes très gentils avec les gens qui respectent nos lois ». Traduction, venez faire du tourisme chez nous, sans appareil photo et sans téléphone portable, sinon gare. Pour la petite histoire, N-Korean, c'est le nom de l'agence en question, a vu ensuite son site internet en Russie céder sous le poids des sollicitations.
Claude Brouillot à Moscou, merci beaucoup et vous m'offrez, c'est trop facile, une transition en or. 18h56, l'édito d'Anthony Bélanger. Bonsoir Anthony. Bonsoir, comment dit-on Fabienne. Bonsoir en coréen? Est-ce que vous le savez?
Non,
comme je dis
je
bonjour tout le temps, je vais essayer
je
en coréen.
Je peux vous
coréen.
Lire dans pas mal de langues, mais pas en coréen.
Allez, donc on sait qu'un missile nord-coréen a survolé hier le territoire japonais. Anthony, ce soir, ce que vous tentez de faire, c'est répondre à une question simple. Mais pourquoi tire-t-il?
Et oui, et surtout, pourquoi tire-t-il autant? Parce que 18 tirs de missiles courtes, moyennes, longues portées, voire intercontinentaux, et ce depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, ça fait beaucoup. Un véritable feu d'artifice, en somme, accueilli, vous avez probablement suivi, par des rodomontades états-uniennes et un renforcement des sanctions économiques contre le régime de Pyongyang. Et pourtant, Fabienne, il continue de tirer encore et toujours. Donc, pourquoi? Eh bien, la première raison du tir de la nuit dernière est assez circonstancielle. Tous les ans, la Corée du Sud et les États-Unis effectuent des manœuvres militaires communes. Et tous les ans, la Corée du Nord proteste contre ces manœuvres qui généralement frôlent la frontière entre les deux Corées. Et cette année, Pyongyang a donc protesté en klaxonnant, c'est-à-dire en envoyant un missile au-dessus du Japon.
Ce qui est quand même une drôle de manière de klaxonner. Ça peut pas être uniquement la démonstration de force quand même. Les tensions sont très vives, non?
Vous avez raison, vous avez raison. En envoyant ce missile, la Corée du Nord, comme toujours, délivre plusieurs messages à la fois. Premier message, nous possédons toute la gamme possible et imaginable des missiles de croisière. Autrement dit, toute l'Asie est à notre portée et nous ne faisons pas que tirer dans l'eau. Nous pouvons aussi viser juste au point de survoler le Japon et de finir deux mers plus loin dans le Pacifique. Donc, un premier message en forme d'avertissement. Deuxième message, vos sanctions économiques ne nous feront pas plier. Les dernières donc ont été adoptées le 14 août à l'ONU. Elles interdisent l'essentiel des exportations nord-coréennes. Et pourtant, nous tirons toujours. Le troisième message est plus subtil, lui. Il vise à internationaliser le problème en survolant le Japon pour la première fois depuis 2009. Eh bien, Pyongyang veut provoquer Tokyo.
Alors c'est réussi, quel intérêt de provoquer Tokyo donc?
Oui, parce qu'ils sont peut-être les seuls à prendre au sérieux Donald Trump, figurez-vous. Que dit le président américain? Qu'il compte sur Pékin et uniquement sur Pékin pour régler le problème et qu'en échange, le Donald est prêt à faire de très importantes concessions. Et qu'a-t-on constaté ces dernières semaines? Eh bien que la Chine a non seulement voté les dernières sanctions de l'ONU, mais qu'elle a commencé à les appliquer sérieusement. Et ça, c'est un véritable cauchemar pour le régime de Kim Jong-un. Le tête-à-tête avec la Chine, c'est exactement ce que veulent éviter les Nord-Coréens qui font donc tout pour ouvrir le jeu et pour obliger les États-Unis, par le biais de ses alliés, eh bien Japon et Corée du Sud, à ouvrir des pourparlers. Tout sauf Pékin seul.
Alors, je vous ai bien compris, Anthony, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'envoyer une bombe atomique pour ça?
Eh bien, eux pensent que oui, et l'histoire ne leur donne pas tort. L'Irak abandonne dans les années 90 son programme nucléaire et Saddam Hussein finit pendu. La Libye abandonne le sien dans les années 2000 et Kadhafi finit lynché. La conclusion est donc toute trouvée. La bombe, c'est l'assurance vie des régimes dictatoriaux.
Anthony Bélanger pour l'édito d'Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le 18-20 continue avec le journal et avec le téléphone sonne aussi. Alors cette rentrée scolaire, vous la voyez comment? Êtes-vous revenu à la semaine de 4 jours? Les classes dédoublées en CP, vous en pensez quoi? Allez-vous envoyer vos enfants en classe de latin les pauvres? Vos avis, vos témoignages, vos questions nous intéressent. 01 45 24 7000.